Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Thérèse est une femme qui intrigue. C'est une ancienne voyageuse et une jeune maman investie. Elle a connu de nombreux émerveillements, mais une blessure persiste qu'elle panse délicatement au fil du temps. Je vous invite à découvrir son parcours original, nourrissant et aussi bouleversant. Belle écoute. Coucou Thérèse.
Coucou Héloïse.
Comment vas-tu ?
Bien, toi ?
Ça va, ça va. Mais écoute, on est chez toi. Et il fait beau, c'est une belle journée d'été, donc je suis ravie que tu m'invites et que tu m'accueilles dans ton antre, dans ton univers. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, avec les mots que tu choisis, les mots que tu as envie d'utiliser pour justement te présenter ?
C'est une question difficile, hein, mais là ce qui me vient, c'est je suis une femme. Donc intéressée par toutes les thématiques liées aux femmes et au genre. C'est pas toujours facile d'assumer cette casquette-là quand on en a d'autres, notamment celle de maman, celle de conjointe. Mm-hmm. Et donc, c'est une qui m'importe fort. Donc, je suis maman de deux petits garçons à qui je lis beaucoup d'histoires.
Super.
Je suis une grande curieuse, j'aime beaucoup lire et aller chercher dans les livres... les choses que je ne sais pas et qui m'intéressent, et je peux passer d'un sujet à l'autre comme ça assez facilement. Je suis une ancienne grande voyageuse et du coup maintenant plutôt une voyageuse de l'infiniment proche. Avec mes deux petits bouts à qui je fais découvrir autant que possible les petits univers qui est vraiment tout près de chez nous.
Oui, je vois ça à distance, mais oui, grande voyageuse. Et je vois qu'effectivement, avec tes enfants, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de choses pour les stimuler, leur offrir le monde. D'où te vient cette envie de transmettre ton plaisir du voyage et toutes ces choses qui te stimulent? D'où ça vient, cette envie de leur transmettre tout ça?
Je crois que j'ai une maman qui m'a beaucoup inspirée dans ce domaine-là, dans le sens où elle m'a beaucoup lu l'histoire quand j'étais petite, des beaux livres illustrés avec des belles histoires, mais c'est aussi elle qui nous emmenait au théâtre quand on était petite. J'ai eu la chance de partir en vacances, d'aller visiter des châteaux, vraiment de m'ouvrir à plein d'univers différents. Et je pense que ça m'a toujours plu, donc j'ai toujours cette curiosité que j'adore transmettre à mes enfants. Et je trouve ça génial de pouvoir en fait redécouvrir, grâce à eux, des petites choses qui m'émerveillaient quand j'étais petite. Et puis là, on a oublié et on les redécouvre avec eux.
Ah super, c'est gai d'entendre ça, c'est réjouissant. Enfin, moi-même étant maman, évidemment, ça me parle beaucoup et c'est très inspirant à distance de voir ce que tu fais avec eux. Est-ce que tu peux nous rappeler leur âge éventuellement ?
Oui. Donc, ils ont presque 7 ans et presque 4 ans.
Ah voilà, donc tes enfants sont encore petits. Oui. Et cette histoire de découverte, elle passe par la lecture, tu as le mentionné aussi, c'est quelque chose qui est très important dans ta vie. Comment tu peux raconter cette histoire de Thérèse et la lecture? Qu'est-ce qui est important à nous offrir par rapport à ça?
C'est très amusant parce que donc, j'ai fait les romans. Mm-hmm. C'est un choix qui était un peu, je ne sais pas, guidé, mais j'ai toujours aimé lire et on m'a assez facilement orientée là-dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et quand j'ai fait l'agrégation, quelques années après, on nous a demandé de faire une petite introspection, de savoir quel était notre rapport au livre. Et je l'ai retrouvé pour toi, Héloïse.
Ah.
Donc, qu'est-ce que j'avais mis dans ce petit exercice? Ben, c'était vraiment l'histoire du soir. Donc, pour moi, c'était vraiment un moment important. Donc, quand j'étais petite avec mes sœurs, on se réjouissait d'avoir l'histoire du soir. Donc, d'abord, c'est des beaux albums. Et puis, on a eu même des petits romans. Et je me souviens que là, il n'y avait plus d'images. On était tellement captés parce que ma mère me racontait que voilà, chaque jour, c'était un petit chapitre, un petit épisode. Et j'ai continué à écouter l'histoire quand j'avais même plus l'âge et que ma maman la racontait pour ma petite sœur. Mm-hmm. Donc ça, c'était vraiment un chouette petit moment. J'étais abonnée à J'aime lire, j'ai eu Les Contes du Chat Perché. Voilà, deux, trois petits titres qui me viennent là comme ça. C'était Boubou n'en fait qu'à sa tête.
Ah oui.
Une petite fille qui savait ce qu'elle voulait. Et donc, j'avais reçu ce livre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Après, plus en lien avec la lecture, je me souviens des lettres au-dessus du tableau. Et je me souviens aussi, ben, pas toutes les lettres, mais par exemple le O de Odile. Et c'était une bouche qui faisait un O de surprise, comme ça, qui voyait un crapaud, je pense, avec un doigt qui pointait comme ça. Et puis il y avait le S de serpent. Et je me revois vers le petit geste et le petit S. Et donc, voilà, ça c'est des petits souvenirs. Enfin, je ne sais pas si j'ai 1000 souvenirs de mes primaires, mais ça m'est resté.
Bah, déjà, ce souvenir de ça, et même de revoir ce tableau, revoir ces images, ces associations d'animaux, d'expressions avec des lettres, ça remonte à loin. Donc, s'ils reviennent à toi aujourd'hui, c'est que c'est quand même marquant. Donc, ton goût de la lecture, il est aussi lié aux lettres, aux mots. C'est pas que l'histoire et l'imaginaire, il y a aussi quelque chose avec... avec voilà, ces signes qui tournent, qui gravitent autour de toi.
En tout cas, une curiosité pour les univers qui sont racontés dans les livres, peut-être mm-hmm. plus que les lettres et les sons.
Ouais.
Même si je suis assez sensible à leur musicalité. D'ailleurs, quand je lis des livres pour enfants où il y a des petites rimes, etc., tout de suite, ça donne un rythme et j'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si j'étais vraiment sensible à ça.
C'est ça, d'accord, oui.
Mais je me souviens très bien faire mes petites lignes de lettres, Babili Bobu, Tatetitotu, mm-hmm. on était tous en file indienne, et donc chacun son tour, on lisait notre petite ligne dans le cahier. Donc, oui, ça, je m'en souviens bien.
Et tu parles des romans, etc., toute cette vie de jeune femme, étudiante, et puis peut-être après tes études, etc., quelle place a l'écriture dans ta vie à cet âge de jeune adulte, on va dire?
Peut-être une petite anecdote d'abord, ça fait partie un peu de ma construction dans ma relation au livre, mais j'ai un grand-père qui est hyper curieux, hyper intéressé par plein de choses, qui a beaucoup voyagé, et donc quand j'avais congé le vendredi, il m'emmenait à la brocante de Saint-Folien.
Oh.
Et j'ai vraiment avec lui apprécié le fait de chiner, d'aller trouver des livres, et donc à chaque fois je ressortais de là avec un énorme sac rempli de grands chefs-d'œuvre qu'il fallait lire. Je ne les ai pas tous lus, mais quand j'ai commencé ma première année de roman, ben, j'avais déjà en fait tous les classiques qu'il fallait lire.
Ah oui, tu avais déjà ta collection avant même de partir.
C'était pas très beau, il sentait un peu vieux, le vieux livre, mais il y avait un côté comme ça assez le livre objet finalement qu'on est allé chiner avec mon grand-père que j'adore, donc voilà,
Et ce rituel autour de la quête du livre est important aussi pour toi dans l'absolu, que ce soit chiné, que ce soit aller en bibliothèque. Je me souviens qu'on s'est croisés en bibliothèque il y a quelques temps et je dis, oh, quelle heureuse surprise. Et j'avais très, très vite capté, je ne sais pas pourquoi, c'était très subreptice, mais que c'était ton lieu. Je ne sais pas, quand je t'ai vu, qu'on s'est croisés, je te sentais à ta place et on sentait que ça. Tout de suite, j'ai l'impression que ça faisait partie de ton quotidien, de tes habitudes.
J'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque des Chiroux, adolescente, pendant mes études. Et puis, j'ai eu une phase un peu sans. Mm-hmm. Et puis là, je travaille place du Ventoux. Donc, c'est un endroit vraiment près de mon travail. Et j'y vais régulièrement. Enfin, c'est un peu par phase et un peu par une envie. Et je m'intéresse au potager, à la permaculture. Et donc, plutôt que d'acheter 56 000 livres, je vais d'abord voir un peu ce qui me... un peu tester, faire mon petit marché, je regarde quelques-uns et s'il y en a un qui me plaît vraiment, je vais l'acheter. Parce que c'est marrant parce que parfois quand je suis en librairie et que je vais acheter un livre parce que j'ai un peu le coup de cœur, le livre m'appelle, c'est pas forcément celui que je vais lire. Alors que ceux de la bibliothèque, comme je vais les rendre, bon, je les lis pas tous non plus parce que quand j'en prends 10 et que j'ai qu'un mois pour les lire, c'est pas toujours évident. Mais il y a un peu plus cette envie d'aller au bout de l'objet et de dire, bah tiens, celui-là, intéressant, pas intéressant, et hop,
Et tu parles de tes petits garçons, il y a des rituels aussi avec eux par rapport au livre, par rapport à la quête du livre, aller en acheter un, s'en procurer un, etc. C'est quelque chose que tu partages avec eux aussi ?
Alors, ils en reçoivent beaucoup, mm-hmm. parce qu'il y a toujours bien un moment où je craque et donc j'achète de nouveaux livres ou des livres d'occasion. Et on va très régulièrement à la bibliothèque. On a une petite bibliothèque de quartier qui est super mm-hmm. bien fournie en termes de livres pour enfants parce qu'elle est dans une école.
Ah oui.
Et donc là, je n'ai pas toujours la possibilité d'aller avec eux, mais quand je vais avec eux, j'essaie vraiment de les laisser choisir. Même s'ils me ramènent des trucs où je sais qu'on les a déjà lus mille fois, que ce n'est pas les livres les plus intéressants. Mm-hmm. Voilà, les livres de pompiers, on en a lu mais voilà, vraiment pour qu'ils puissent aller vers leur passion, là où leur curiosité les emmène. Et puis de temps en temps, bah, j'oriente vers un univers ou l'autre.
C'est ça, oui.
Et ici, c'est marrant, Théo, il a choisi, donc Théo, c'est 8-7 ans. Il a été me chercher un livre sur l'architecture avec le Taj Mahal, mais c'est vraiment pas un livre pour enfants, plutôt déjà ado. Et voilà, on regarde les images et on voit dans quel pays ça se trouve. Et c'est vrai qu'il a une grande carte du monde et il est fort sensible à la géographie. Donc voilà, on essaie de faire des liens entre ce qu'on voit dans les livres, ce qu'on vit et peut-être des projets qu'on peut faire.
Super, ben, en tout cas, j'ai l'impression que l'intérêt est déjà présent, parce qu'aller chercher des livres comme ça déjà... de sujets très spécifiques, peut-être même d'un niveau, voilà, d'un autre âge, une autre tranche d'âge, bah, c'est qu'ils sont déjà appelés par ça. C'est chouette, c'est beau, c'est réjouissant de voir que ça se transmet aux plus jeunes comme ça. Par rapport à la lecture, justement, dans ton parcours de jeune femme, est-ce qu'il y a des moments où la lecture est vraiment venue avec d'autres choses? Est-ce que tu as les souvenirs d'un moment où la lecture est venue vraiment à ton secours, ou comme un guide, ou comme un ami pour t'aider, t'éclairer sur ta route par rapport à des moments importants?
Peut-être le premier moment, c'était la maternité.
Oui.
Donc, évidemment, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on découvre, on peut avoir un peu d'angoisse, même simplement vouloir comprendre ce qui se passe.
Comprendre déjà, oui.
Donc j'avais acheté J'attends un enfant de Laurence Pernoud, mm-hmm. J'avais aussi le petit guide Semaine après semaine, donc des choses comme ça. Après, j'ai beaucoup lu sur la parentalité positive, gérer les crises.
Ah oui, oui, les émotions.
Voilà, et j'avais juste envie de... parce que bon, c'est pas facile. Je pense que c'est un moment, je sais même pas le décrire, mais le moment où on devient maman, où on n'est plus juste nous tout seul, ça bouleverse tout. Et c'était une année pour moi fort chargée, puisque j'avais décidé de faire l'agrégation. J'étais un peu en transition entre deux boulots et je m'étais dit, quitte à ne pas trouver tout de suite du travail, autant être occupée. Donc mon fils est né en septembre et au 1er octobre, je commençais l'agrégation.
Ah oui.
Et puis en février, je recommençais un nouveau travail à 4-5e. Donc tout ça a été bien... c'était une année bien remplie. Et je n'ai pas pris conscience, à mon avis, de ce changement qui s'opérait. J'ai vraiment foncé tête baissée, comme je sais très bien le faire.
Oui.
Et oui, ça m'a pris un peu du temps de m'assumer, moi, en tant que maman. Et donc, j'avais plein de questions. Et là, j'ai été donc, dans les livres... essayer de m'inspirer. Alors, mon seul souci, c'est que je n'arrive pas à retenir tout ce que je lis,
oui.
C'est bien dommage.
C'est souvent le problème, quand on a tellement de titres, quand on lit tout le temps, on ne sait pas tout garder en souvenir comme ça. Est-ce que du coup, moi, ma question, c'est plutôt de savoir, est-ce que c'était un mix de lecture, plutôt de compréhension informative, psychologie, etc. Est-ce qu'il y avait aussi des types de littérature qui venaient dans ces thématiques-là, ou c'était principalement vraiment des livres... qui t'explique les choses.
Oui, principalement psychologie, sociologie, anthropologie. Tout
voilà.
Ça.
Ouais.
Et c'est amusant parce que j'ai beaucoup lu de romans toute mon adolescence et pendant mes années d'études, même de jeune femme active, j'étais quand même fort tournée vers plutôt de la fiction.
Ouais.
Et puis tout d'un coup, j'avais juste besoin de passer à la vitesse supérieure pour comprendre encore davantage le monde.
Ouais.
Et donc là, principalement, oui, je lis des romans. En vacances, j'essaye d'en lire le plus possible parce que c'est vraiment le moment où dans la voiture, si je ne conduis pas, je commence un livre et j'arrive en vacances, j'ai déjà lu un livre. Ça, c'est génial.
Tu sais lire un livre en voiture, en transport? Mais quelle chance, heureuse!
Obligatoire, parce que vu que je n'ai pas le temps de lire beaucoup de livres pendant l'année, et bien là, ça me permet de donner un petit coup d'accélérateur, donc ça, c'est génial.
Oui, mais c'est vrai que vacances, pour beaucoup, beaucoup de personnes, c'est le moment idéal où on lit, entre guillemets, le plus. Non pas qu'on soit obligé de lire le plus possible, mais c'est un moment vraiment très privilégié pour beaucoup de personnes. Là où je suis ébahie, je t'envie, j'aimerais pouvoir lire dans les transports aussi. C'est une chance, quand tu pars en vacances, il y a quoi, 10, 12 heures parfois de route.
Et je l'ai toujours fait, et ça c'était un autre petit souvenir que j'avais noté dans mon petit travail, là, comme je te parlais au début. C'était la bibliothèque de voyage. Donc, en fait, ma famille se moquait toujours de moi parce que j'avais un énorme sac rempli. J'avais dévalisé les Chirou juste avant de partir, les plus gros si possible, et plus d'autres trucs traînaient que je me disais que j'allais prendre le temps de lire. Et donc, j'avais cet énorme sac, tu vois, les gros sacs d'Elias ou Carrefour,
oui.
mes pieds, j'avais plus de place. Et donc, voilà, je commençais, dès que je rentrais dans la voiture, je commençais à lire. Et
incroyable.
Donc, mes sœurs... toujours bien contente à un moment donné, quand elles avaient lu tout ce qu'elles avaient apporté, de venir chercher dans la petite bibliothèque.
Oh, mais c'est magnifique!
Et du coup, on pouvait échanger sur nos lectures. Ouais. Et ça, toujours, c'est des chouettes moments.
C'est un beau rituel, je trouve, le rituel de déjà sélectionner ses livres pour les vacances, et puis on ne sait pas toujours lequel on va prendre au moment où on arrive, etc. Donc cette petite bibliothèque, c'est très très intéressant. J'aime bien le nom, le concept.
Et je fais toujours ça, j'en prends un peu moins, mais j'aime bien avoir le choix.
Ouais.
Donc il y a des moments où je suis plus d'humeur à lire un livre plus sociologique, psychologique, et d'autres moments où j'ai juste envie de m'évader, donc d'avoir un ou deux romans, et toujours avoir un en plus, parce que si jamais je ne rentre pas dans les... Je me donne le droit de me dire, oui non, ça je rentre pas dedans, j'ai pas envie, ou c'est pas que c'est mal écrit, c'est juste que finalement, c'est pas cet univers-là qui m'appelle.
T'as pas accroché.
Mais même avant de commencer à lire,
ou
d'avoir juste lu le résumé, je prends quand même des choses qui sont arrivées dans mes mains pour une raison, mais parfois ça traînait un peu, je me dis, allez, je vais le prendre en vacances, mais si jamais il m'attire toujours pas, j'ai quand même un livre de secours.
Ah, je pense à parler à plein de personnes qui nous écoutent. Déjà, moi, ça me parle très personnellement. Je me retrouve complètement dans cette idée d'avoir le choix. Mm-hmm. C'est très compliqué quand on part en avion, par exemple.
Ouais. Alors, moi, j'ai jamais eu de Kindle et des machins comme ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai besoin d'avoir le livre, de pouvoir souligner, de pouvoir faire des coins dans les bouquins. Mais j'ai toujours eu des livres avec moi. Et même quand je partais avec mon sac à dos... en randonnée avec pour 10 jours où on doit porter tout ce qu'on emporte avec nous, j'avais quand même toujours un gros livre de poche pour être sûr qu'il dure jusqu'au bout du voyage, et ça je l'aurais porté jusqu'au bout.
Ah, c'est gai, ça fait déjà voyager rien que de t'entendre parler de ça, et le livre comme compagnon de voyage, c'est une très belle image aussi.
Et comme on parle du voyage, j'ai toujours bien aimé aller chercher les livres qui parlent des endroits où je vais. Alors, c'est pas automatique, mais on a l'impression de vivre d'autant plus l'histoire que quand on est immergé. Enfin, si on est en Italie, lire un livre qui se passe à la Renaissance italienne ou contemporain, mais vraiment qui nous emmène dans
le
cœur de la culture, de la langue.
Complètement. Et puis, ça amène encore un autre degré de lecture, de compréhension, justement, de l'endroit dans lequel on se rend. C'est très riche et c'est vrai que pour les personnes qui voyagent, je pense qu'elles comprendront aussi ce besoin de... Tu découvres en étant sur place, tu peux presque un petit peu préparer à l'avance, ou même dans l'instant, en ce moment de pause, où tu te reposes, où tu siestes, ou même dans un train, j'imagine dans les voyages, il y a beaucoup de transport aussi, et d'avoir accès à ça en plus. Est-ce que tu trouves que ça magnifie le voyage, ça le complète quelque part ?
Oui, tout à fait.
Super, merci. Pour revenir à...
C'est le voyage dans le voyage, en fait.
Ah, voilà, c'est ça, ouais. Une belle mise en abîme comme ça. Super. Je me pensais aussi à tes rituels de lecture, etc. Maintenant, voilà, tu es maman, tu as une vie active, bien remplie. Comment tu arrives à mettre la lecture dans cette semaine bien chargée, ou dans ce rituel peut-être de tous les jours? Comment ça se passe pour toi?
Je veux dire que pour le moment, je suis dans une période où je suis en mode escargot. Donc il fait beau dehors, et c'est vrai que j'ai du mal à vraiment m'asseoir avec un livre, même si, ou simplement d'avoir ce temps-là en fin de journée, parce que je laisse mes enfants gambader un petit peu plus tard que d'habitude. maintenant, j'adore limite être dans une file d'attente ou prendre le train. Je ne le prends pas beaucoup pour le moment, mais dès qu'il y a des moments un petit peu comme ça de transit, j'ai toujours un livre avec moi et donc ça me permet d'avoir une attente voilà, agréable. Mm-hmm.
Oui, c'est vrai, finalement, le moment d'attente, dès que tu as un livre en main, dans ta poche, devient presque un moment offert à toi pour pouvoir te plonger 10 minutes, un quart d'heure. Alors, si tu attends longtemps dans les administrations ou autre chose, là, tu as peut-être 3 quarts d'heure parfois pour toi. Donc, toi, tu as toujours un livre avec toi, quelque part en poche.
Super. Rendez-vous chez un médecin dans la salle d'attente, j'ai un livre.
Ouais.
Mais je lis quand même tous les jours et je lis avec mes enfants.
Ah oui.
Surtout. Et ça, c'est vraiment un passage un peu obligatoire et c'est un vrai bonheur, même s'il est déjà un peu tard, même s'ils sont un peu excités. Donc, j'essaie de... Enfin, je vais jamais les priver de l'histoire parce que ça permet aussi de revenir au calme et puis d'avoir ce petit moment, cette petite bulle. Alors, les rituels évoluent parce qu'il y en a un qui veut des histoires plus longues, l'autre, ça ne l'intéresse pas, donc il va chipoter dans son coin. Mais on continue à lire des histoires et ils n'ont jamais trop de mal à me dire « Maman, encore une ?»
Ah oui, en fait, ce qui est dur, c'est de couper, quoi.
Ouais. Je me souviens de Théo, donc quand il était tout petit, qui me disait « Maman, encore une, encore une. » Et puis alors, il m'a sorti un jour, mais une toute petite. Hein, et je me suis rendu compte que c'était moi qui disais à la fin, quand il insistait, « Ok, d'accord, mais une toute petite.
Oui. »
Et donc, il avait bien compris l'astuce. Et il n'avait même pas 2 ans quand il m'a sorti ça. Et donc voilà, ils savent bien que c'est assez facile de m'avoir pour un chapitre de plus. Et là, ce qui m'a sorti, donc maintenant, il sait lire de mieux en mieux.
Wow.
Et donc, en général, on lit un « J'aime lire », c'est 7 chapitres, je vais jusqu'au 3e chapitre inclus. Et puis, il veut, évidemment, poursuivre toujours un petit peu. Il me dit mais maman, allez, je lis la première page. Donc, il a compris. Et donc, du coup, si je peux l'encourager à lire
bien
et
sûr.
Que ça vient à son initiative, je ne vais jamais lui dire non. Donc, voilà, je pense qu'ils ont de belles... encore de belles soirées de lecture à m'arnaquer par-ci, par-là.
Oh, c'est une belle arnaque.
Je suis joueuse.
Mais j'avais lu un article récemment qui démontre que même justement quand les enfants savent lire, en fait, ils sont encore très très demandeurs. C'est prouvé que beaucoup beaucoup d'enfants sont encore très très demandeurs de ce moment où même où un parent continue à leur lire une histoire parce qu'il y a tellement de rituels autour. Tellement de choses qui ne sont pas dites, qui sont dans les silences, dans les regards, etc., que ça ne m'étonne pas qu'ils soient autant.
Je crois que je m'éclate autant qu'eux.
Ouais, et le ressenti en moi aussi.
Il y a un côté hyper relaxant, en fait, de lire à haute voix. Et puis soi-même, finalement, et c'est lié au fait d'être maman, c'est avec ses enfants, on peut tout oser, finalement. Mmh. On peut revenir à son âme d'enfant, on peut être un clown, on peut être un imitateur de voix, enfin voilà, tout ce qu'on n'oserait pas faire peut-être en dehors de ce public-là. Et je trouve ça hyper, hyper jouissif, quoi, de pouvoir vraiment être soi-même et de se mettre à leur niveau.
Ouais. Et c'est le meilleur public, en plus.
Ouais. Et en fait, quand on est authentique et sincère et qu'on est vraiment dans le partage, ben c'est juste des moments magiques. Quoi.
Ah, écoute,
c'est super.
Ça me réjouit d'entendre ça parce que c'est quelque chose qui est tellement précieux, qui n'est peut-être pas donné à tous les parents, de pouvoir prendre du temps, passer du temps avec leurs enfants, qui n'est peut-être pas donné à tous les enfants aussi, dans des parents. Donc c'est quelque chose de très très précieux et ils ont beaucoup de chance d'avoir une maman qui leur consacre ce temps et qui leur transmet ce moment de sérénité le soir et de magie. En parlant justement de maternité, voilà, cette notion de bulle à trois est très importante, je comprends, pour toi, et ce moment où tu es là avec eux. Il est arrivé quelque chose dans ta vie qui fait qu'effectivement, tu as dû être vraiment présente pour eux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement la lecture et comment la vie s'est mise sur ton chemin pour que ce moment à trois soit presque un socle important dans votre vie de famille?
Oui, donc leur papa est décédé il y a 4 ans, et avant même la naissance du petit deuxième. Donc voilà, il a fallu l'accueillir du mieux possible, avec beaucoup de joie, mais à la fois dans un contexte un peu triste.
Oui.
Et c'est vrai que je pense que le livre était un peu la branche de secours, là, où j'ai lu beaucoup de choses sur le deuil, donc juste moi pour pour traverser ça, pour comprendre. Et c'est vrai que ça peut être très confortant de se dire qu'il y a d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses autobiographiques, en fait.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est des témoignages, parce que parfois, c'est un peu à la frontière, c'est de la fiction, mais inspiré d'histoires personnelles. Mm-hmm. Et donc, moi, ça m'a beaucoup touchée. Il y en a un, notamment, de Carol Hawes-Joyce.
Mm-hmm.
Et ce livre, en fait, j'ai mis une éternité à le lire. Je pense plus d'un an.
Ah ouais.
La bibliothèque. Bon, ma petite bibliothèque du quartier est assez, assez cool avec ça. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression que d'avoir fermé ce livre, bah, j'avais déjà fait un grand pas.
Ouais.
Je ne sais plus comment il s'appelait, je pense que c'était l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir.
Ah,
et
oui.
Déjà, même les titres en fait, de cette littérature-là sont hyper forts.
Mm-hmm.
Et ils sont tellement forts que je les ai oubliés, comme si même le fait de les lire, ben, on sait que c'est quand même dur.
Ouais.
Et donc, voilà, on oublie, je les ai écrits quelque part, si tu veux, je vais les ressortir.
Oui, oui, bien sûr, merci.
Voilà, mais c'est vrai que c'était assez naturel pour moi d'aller trouver du réconfort dans les livres, parce que dans ces situations-là, même si l'entourage vit aussi un deuil, on a à chaque fois l'impression qu'on est seul par rapport à son propre deuil et qu'aucun deuil ne se ressemble.
Mm-hmm.
Et donc, voilà, lire les histoires d'autres femmes, d'autres mamans, c'est...
Et tu es parvenue à trouver un type de littérature ou de témoignage ou de récit qui parlait vraiment de parcours de femmes dans cette situation-là? Tu as dû vraiment chercher de manière approfondie pour trouver vraiment quelque chose dans lequel tu puisses vraiment bien te projeter toi-même en tant que jeune femme?
Je pense que j'ai lu un livre d'un psychologue qui parlait du deuil et il faisait référence à certains livres.
Mm-hmm.
Donc je pense que ça a été le début de ma démarche. Et puis en fait, on parlait des Chiroux tout à l'heure, mais il y a toujours un tourniquet avec les nouveautés.
Oui.
Et je m'arrête toujours à ce tourniquet-là. J'ai deux, trois points où je m'arrête. En fait, je ne viens pas avec une liste de livres. Enfin, parfois, je sais dans quel domaine, quelle thématique j'ai envie de chercher, mais plus souvent c'est un peu allez, on va voir ce qu'on trouve.
Ouais.
Et il y a parfois des belles surprises, des belles rencontres avec des livres. Il y avait notamment un livre de Rosa Montero,
mm-hmm.
Que j'ai trouvé là comme ça complètement par hasard et qui m'a aussi vraiment transportée, qui parlait de Marie Curie,
ouais.
Qui elle a perdu donc Pierre Curie dans un accident de manière assez impromptue. Et donc voilà, l'auteur, je pense, avait vécu un deuil et puis il y avait l'histoire de Marie Curie. Et donc voilà, c'était une communauté en fait.
Ah oui, vous vous retrouviez entre vous.
Avec le cœur brisé comme ça. Et oui, c'est... Pendant un moment, on se sent accompagné. Je ne peux plus te raconter tous ces livres que j'ai lus parce que une fois que le livre se ferme, on tourne une page, on avance.
Et puis dans une situation, j'imagine, je peux imaginer, où il y a tellement d'émotions et tellement de choses diverses en même temps que... C'est peut-être moins facile de se rappeler vraiment des éléments. Je pense que je me permets d'imaginer que tu dois consommer, absorber beaucoup de choses, en fait. Et puis que, oui, tu es déjà sur autre chose après. C'est ça.
Et puis, il y a aussi les livres qui m'ont été suggérés,
mm-hmm.
voilà, qu'on m'a offerts. Et là aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes. Et c'était chouette aussi de discuter avec la personne qui me l'avait offert.
Ah,
qui a
oui.
peut-être vécu aussi quelque chose de difficile. Et donc, là, voilà, de transformer ça en échange.
Oui, avec du lien, finalement,
oui.
autour de ce partage ou de ce cadeau. Est-ce que tu as réussi à te remettre dans la lecture, entre guillemets, assez facilement, par rapport à ce chamboulement dans ta vie? Est-ce qu'il a fallu attendre la naissance de ton petit? Est-ce que déjà avant qu'il naisse, tu parles de branches auxquelles tu as pu t'accrocher? Est-ce que tu as été en mesure de saisir cette branche de la littérature comme un soutien assez rapidement? Ou il a fallu le temps de pouvoir se remettre dans la lecture après ce choc?
Écoute, je ne saurais vraiment pas te répondre à cette question, mais j'ai l'impression que assez naturellement, il y a eu des livres.
Ouais.
J'ai une maison pleine de livres. Juste après, je suis retournée vivre chez mes parents quelques semaines. Là aussi, c'était rempli de livres.
Mm-hmm.
Donc, j'ai toujours eu cette attraction. S'il y a une bibliothèque chez quelqu'un, je jette un petit coup d'œil. Et donc, oui, je pense que ça a été assez naturel. Et de nouveau, cette envie d'aller chercher dans les livres les réponses que je ne trouvais pas. Ou parfois, c'est plus facile d'être dans sa petite bulle et Oui, je ne sais pas si c'est de se créer un peu des réponses plutôt que de se confronter. C'est plus rassurant peut-être oui. que d'aller se confronter au monde. Je ne sais pas. Je pense que j'ai oui, toujours oui. eu, toujours apprécié ces petits moments en fait, où je suis carrément happée dans cet autre univers. Mm-hmm. C'est peut-être un peu une fuite aussi.
Ou une antichambre avant de reprendre la vie peut-être, le cours de la vie. C'est une belle image, je trouve. Parce qu'un petit cocon, on a le droit à ces petits cocons, justement. Et heureusement qu'ils existent, que ce soit ce genre de situation où on est confronté à un deuil ou il y a d'autres situations dans la vie qui nous chamboulent. Je pense que heureusement qu'on a droit à sa petite grotte. Si elle est entourée de livres, où qu'on aille, tant mieux. De pouvoir se dire que c'est peut-être... Oui, moi, j'aime bien voir cette idée de l'antichambre, tu vois, où ce sas de décompression avant de reprendre la vie ou la réalité de pleine face. Est-ce que tu peux plutôt dire qu'à ce moment-là, c'était plutôt des livres... J'ai l'impression, quand tu en parles, c'est plutôt des livres du domaine vraiment de la littérature, du domaine de la fiction. Alors que quand tu parlais de maternité, de jeune maman, etc., c'était plutôt de la compréhension. Est-ce que pour toi, la littérature est plus parlante par rapport à cette thématique du deuil? Ou ça s'est juste mis par hasard comme ça?
Peut-être que plus spontanément par rapport au deuil, j'avais envie... En fait, je cherchais mon histoire dans tous ces livres. J'en ai trouvé d'autres. Mm-hmm. Et y a quelque chose d'universel, en fait, dans les histoires, mm-hmm. qui dépasse un peu juste le côté très théorique de, ben voilà, pour faire son deuil, etc. Enfin, voilà, tout ça, je pourrais pas t'en parler parce que je l'ai lu et puis j'ai peut-être oublié.
Ouais, ouais, ouais.
Par contre... les histoires et la vie des gens est quelque chose de beaucoup plus prenant, mm-hmm. On peut vraiment s'identifier, et parfois je lisais des trucs et je dis mais c'est exactement ça.
Allez, oui.
et de se dire bah là il y a quelqu'un qui m'a compris, alors que ce soit de la fiction, que ce soit vraiment la personne qui a vécu ça, moi c'était comme quelqu'un qui me frottait un peu l'épaule et en tout cas qui avait compris. Mm-hmm. Donc il y avait ce côté un peu magique qu'on ne peut pas retrouver dans un livre plus théorique, plus scientifique.
Oui, en bibliothérapie, on parle souvent, c'est une notion assez répandue, que voilà, dans la bibliothérapie, pour accompagner quelqu'un justement dans un mieux-être avec différents types de livres, les livres de compréhension, que ce soit des essais psychologiques, développement personnel, vont aller toucher vraiment le côté rationnel. Et on en a besoin parfois, remettre du sens et remettre de l'ordre dans certaines choses dans nos vies, et qu'en fait la littérature va plutôt toucher le côté vraiment émotionnel, sensation chez la personne. Mmh. Est-ce que tu as ressenti vraiment des sensations ou des émotions fortes dont tu te souviens par le biais de la littérature et de ces thématiques-là?
C'est un peu loin déjà.
Ouais.
À un moment donné, je me suis dit ok, t'en as lu assez.
Ouais, ouais, ouais.
Maintenant il y a la vie, et donc j'ai lu plein d'autres choses après, mais récemment j'ai encore lu un livre qui s'appelle je pense un enterrement et quatre saisons, mm-hmm. et donc ça parle d'une dame donc qui est prof de, donc elle, c'est Nathalie Prince, qui est prof de lettres française, qui a perdu son mari, et donc elle raconte, donc je sais pas à quel point c'est inspiré, enfin de nouveau, est-ce que c'est la fiction, est-ce que c'est... Pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse très fort. Évidemment, quand on écrit un livre, que le personnage principal porte son propre nom,
ouais.
Ou pas, bah, on y met toujours de soi, mais là, la frontière est encore plus floue.
Ah oui, ça,
c'est vraiment
vrai.
Elle, avec ses quatre enfants, et elle explique une année après le décès de son mari.
Ouais.
Et donc, ce livre m'est tombé dans les mains il n'y a pas très longtemps. Et j'ai lu un autre aussi pendant le confinement qui s'appelait Histoire d'un amour perdu. Mm-hmm. D'Éric Emmanuel Schmitt, que j'adore, je trouve qu'il a une écriture vraiment très sensible, très lumineuse, mais à la fois avec beaucoup de légère, douce. On sent bien en fait avec lui. Il y a ce côté où il arrive à nous faire rentrer dans son univers, on a l'impression qu'on le connaît. Et que, mm-hmm. Parce que lui, là aussi, il parle de lui, donc là, c'est le deuil de sa maman.
Sa maman, oui, c'est
très
ça.
Proche. Mm-hmm. Et c'est deux livres que j'ai trouvé vraiment. Beau, pour différentes mm-hmm. raisons, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes deuils.
Oui, oui, bien sûr.
Mais voilà, je sais plus pourquoi je te parlais de
On parlait d'émotions et sensations, etc. Justement, par rapport au fait que ces deux derniers-là, tu viens de les lire récemment, c'est cette question-là qui me vient à l'esprit. Est-ce que de lire sur la thématique du deuil au moment quasiment où tu le vis et maintenant quelques années après avec le recul, est-ce que ta relation à la lecture est différente par rapport à cette thématique-là? Est-ce que tu sens qu'il y a une manière différente d'accueillir ces histoires? Et qui montre que peut-être toi tu as changé, qu'il y a des indices qui te montrent que toi tu as évolué grâce au livre.
C'est de nouveau une question très difficile parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que quand je lis, je suis tellement dans l'instant que cet instant, une fois que je ferme le livre, il s'efface.
Ouais.
Mais c'est beau parce que d'un côté, c'est, il n'existait qu'à ce moment-là et c'était fort et c'était beau, mm-hmm. et j'ai ressenti des choses, mais c'est difficile de me remettre dans cet état-là. Non, tu me demandais si j'avais ressenti une émotion forte. Et oui, ici en lisant le témoignage de Nathalie Prince, j'ai pleuré encore en lisant ce livre. Donc ça me touche encore. C'est vrai que je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre de toute ma jeune vie. Mm-hmm. Donc je pense que ça laisse des traces et je reste touchée par ce genre de livre, de témoignage. Et voilà, je le serai peut-être encore toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était assez de nouveau de me dire, mais les mots qu'elle choisit, si j'avais dû écrire quelque chose, ben, j'aurais tellement voulu choisir ces mots-là parce qu'ils sont justes, ils sont vrais, il n'y a pas de trop.
Ouais.
Et je veux dire que dans tous les livres que j'ai lus par rapport au deuil, ce qui m'a vraiment marquée, c'était cette authenticité, cette sincérité, et pas de pathos, de truc larmoyant. Je sais pas, il y a une justesse en fait, en tout cas dans les livres qui ont croisé mon chemin.
Est-ce que pour toi c'est un heureux hasard que tu aies justement rencontré ce type de livre qui ne soit pas dans le pathos? Est-ce que c'est la magie de la rencontre d'un livre avec quelque part tes attentes? Ou est-ce que c'est consciemment choisi parce qu'on t'a bien conseillé Parce qu'on pourrait avoir des histoires beaucoup plus mélodramatiques et justement, ces livres que tu as reçus correspondent à l'état d'esprit dans lequel tu as envie d'être, j'ai l'impression.
Oui, et à la fois, j'ai jamais vraiment beaucoup cherché. Je pense que les livres sont assez facilement venus à moi. Mm-hmm. Je pense pas qu'ils m'ont été tellement conseillés. C'est plus en parcourant une bibliothèque, une librairie, en étant sur un site. Il y a des noms comme ça qui apparaissent et... de nouveau par rapport à Nathalie Prince, ce que j'ai adoré dans son livre, c'est l'autodérision, quoi.
Ah oui.
À un moment donné où on peut arriver à rire et à se dire ok, c'est dur ce que je vis, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir, mais il peut se passer des trucs absolument drôles rassurants, réconfortants, décalés,
oui.
Et donc elle va un peu dans cette direction-là. Ça me plaît parce que ça correspond bien à ma personnalité, à qui je suis, et dans l'envie de quand même aller de l'avant, de quand même essayer de voir le positif. Oui.
Mm-hmm. Ah, écoute, c'est agréable de t'entendre parler de ça parce que pour te côtoyer ponctuellement, régulièrement. On sent justement que tu n'es pas du tout dans cette volonté de créer un univers où il y a le pathos, où il y a trop d'émotions. On sent ton envie de rire, d'être tournée vers la vie. Tu es quelqu'un, j'ai l'impression, très dynamique, très tournée vers le beau, le bon, etc. Et si ces lectures viennent un peu comme des jumeaux de ta pensée, comme des jumelles de ta pensée, ce témoignage que tu apportes me donne le sourire parce que j'ai l'impression, ça c'est mon point de vue personnel, mais que les livres, ils trouvent son chemin vers toi quand même. Je ne sais pas comment. Tu partages ça aussi ou pas?
Oui, ouais, tout à fait. Mm-hmm.
Ou alors que tu as une bonne intuition, je ne sais pas. Tu sens que tu as une bonne intuition pour sentir le livre qui est bon?
J'arrive à ne pas me poser trop de questions en fait, d'aller plus au feeling, d'avoir un livre entre les mains, et c'est pas que je sens des petites palpitations ou quoi que ce soit, mais c'est juste ah oui, ok, non, ce livre là je le prends.
Ouais.
Je vais peut-être jamais le lire comme je disais tout à l'heure,
ouais,
mais
ça arrive,
sur le moment il y a une raison qui fait que j'ai envie de l'embarquer.
Wow.
Mais il y a peut-être un truc, on parlait de bibliothérapie tout à l'heure, et j'ai l'impression que très intuitivement, ma maman a joué ce rôle-là avec moi.
Ah,
donc,
oui.
C'est une grande lectrice, elle est dans un groupe de lecture, donc c'est une passeuse de livres.
C'est beau ça comme expression.
Avec mes sœurs, enfin ma grande sœur surtout, elle fait tourner des livres et c'est vrai que certaines thématiques qu'elle a mises dans mes mains à un moment ou à un autre m'ont vraiment touchée. Et voilà, ça c'est un truc que j'adore dans la relation que j'ai avec ma maman, c'est ce passage par les livres. Même si parfois on a peut-être des périodes où on a plus échangé qu'à d'autres moments, mais il y a toujours eu ce lien avec les livres.
Qui reste, quoi,
oui.
Qui est présent. J'ai l'impression que tu es presque en train de faire la passeuse de livres pour tes enfants. C'est comme s'il y avait le flambeau qui était repris et que... Je me permettais d'aller un petit peu plus loin, de devancer ça, mais j'ai l'impression que la relation que tu as avec tes fils, avec ce que tu as amené au début de notre discussion, est quand même très, très orientée aussi vers cette transmission des livres. Est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui passe avec eux à ce niveau-là, dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui fait partie de leur vie aussi ou qui est en train de faire partie de leur vie?
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est le fait, probablement le fait d'être entourée de livres, d'avoir des personnes disponibles pour leur lire. Ben, quand le plus petit, donc il y a 4 ans, est tout seul, assez spontanément, il va chercher un livre et il s'occupe dans son petit coin quand je suis occupée, donc c'est assez chouette. Le grand, ben, il commence à vouloir amener des livres à l'école. Donc, je trouve ça super chouette de me dire, ben, ils ont envie de partager aussi ce livre préféré ou l'histoire qu'ils avaient rigolé.
Oh, donc ils sont déjà presque prêts à passer le flambeau aussi aux autres alors. Ils sont déjà presque prêts à faire les passeurs eux-mêmes.
Voilà, j'ai pas cette ambition-là et
non.
Moi l'intérêt c'est qu'ils trouvent plein de choses dans les livres. Je trouve qu'il y a, enfin, c'était dans ton podcast de Florence où elle disait... j'ai envie d'écrire parce que j'ai envie de vivre plusieurs vies, mais rien qu'en les lisant, on vit aussi plein de vies, on voyage. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de leur transmettre. Je suis quelqu'un de profondément curieux et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises grâce aux livres.
Ouais.
Je sais pas, mes enfants, ils ont toujours bien parlé, utilisé des mots parfois un peu compliqués, puis qui me surprennent un peu
ça,
moi-même.
Il n'y a pas de mystère.
Et j'ai pas du tout l'impression de leur parler... des grandes phrases et des grands mots compliqués, mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots dans notre vie, qu'ils soient écrits ou parlés.
Mais s'ils sont entourés par ça, déjà oui, pouvoir aller chercher dans une bibliothèque, ce qu'ils captent aussi de ce que tu lis à voix haute, c'est peut-être pas toi qu'ils utilisent dans le langage de la vie de famille de tous les jours, mais si tu as lu beaucoup à voix haute, le nombre de choses qu'ils captent, on s'en rend même pas compte. Ouais. À ce sujet, par rapport aux lectures que tu proposes à tes enfants et avec lesquelles tu partages des éléments de compréhension, d'information, des bons moments savoureux, est-ce que tu as aussi utilisé la lecture pour répondre à certaines de leurs questions par rapport à l'absence de leur papa? Est-ce que ça n'a jamais été le cas? Ou est-ce que finalement ça a été une ressource parmi d'autres pour, surtout avec le grand, j'imagine, peut-être le petit aussi, le livre est une ressource ou pas?
Oui, c'est vrai que Théo, il était très petit, donc il avait un peu plus que 2 ans et demi. Et donc, peut-être le deuxième ou le troisième jour après le décès de son papa, j'avais des livres qui parlaient de ça. Et je me revois en lui expliquant, bon, c'est des moments difficiles parce qu'on va lire ça et nous, on sait tout le côté triste et terrible derrière. Et, l'enfant, lui, ne comprend pas encore bien. Mais c'est sûr que les livres ont été... ça a mis des mots simples et ça m'a donné confiance. Et du coup, ça m'a aidé à trouver mes propres mots, j'ai l'impression, pour pouvoir en parler.
Oh, c'est beau, ça me touche beaucoup ce que tu amènes là. C'est comme si ça te montrait la voie, quoi, du langage à employer avec eux.
Et c'est vrai que dans les livres que je choisis, parce que mine de rien, j'essaie quand même toujours d'en amener 2-3 que moi j'ai envie de lire, parce que c'est quand même moi qui fais la lecture
ce soir. Et ça pète ton kiff à toi aussi.
Voilà, ils ont leur livre préféré que j'ai déjà lu 10, 20, 30 fois. Donc, de temps en temps, une nouvelle histoire. Et c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup. J'essaie d'en glisser un qui détourne un peu les clichés, où on a une princesse qui n'a pas envie d'être une princesse, qui est la pire des princesses, ou enfin voilà, des petits garçons qui ont envie de jouer, enfin c'est un peu bateau comme ça, j'ai pas de titre là comme ça, mais en tout cas qui déconstruisent un petit peu des concepts trop convenus.
Ouais.
Je pense qu'on est quand même fort attentif à ça pour le moment.
Mm-hmm.
Et j'ai envie que bon, voilà, ils n'ont pas de référent masculin à la maison.
C'est ça, oui, oui.
Voilà, leur papa n'est plus là et donc ils ne voient pas. Il y a beaucoup de livres en fait qui présentent des familles, deux enfants, papa, maman.
Mm-hmm.
Et c'est très bien. Mais j'ai aussi envie de montrer qu'il y a autre chose. Et parfois, c'est une maman qui est tout seule, parfois, c'est un papa qui est tout seul. Et, mmh. et voilà, montrer qu'il y a d'autres réalités, qu'il y a d'autres choses qui existent.
Ah oui,
pour moi, ça, c'est important.
Waouh, c'est la porte d'entrée à ça aussi pour eux, quoi.
Oui.
Cette notion d'inclusivité, de plein de choses, de plein de portraits, de plein de possibilités. C'est quelque chose qui t'a, du coup, voilà, le fait de devoir peut-être penser cette image de la masculinité, ça t'a permis de d'ouvrir justement. Le débat sur le genre, sur les rôles attribués, etc. Ça t'a amené plus directement dans ces thématiques-là avec eux ?
Probablement, mais c'est pas de manière très construite.
Oui, oui, oui.
Je vais amener cette question.
Non, j'imagine bien sûr.
Mais ouais. De temps en temps, je lis des trucs, je dis, bah, c'est quand même curieux, ça. J'ai pas d'exemple comme ça, mais je les challenge un peu. Je dis, mais et toi, t'aurais fait quoi là ? Et toi, t'en penses quoi de ça ? Et donc vraiment, ouais. En fait, qu'ils puissent aussi se créer leur petite pensée et se dire qu'il n'y a pas une seule manière de voir les choses et qu'on peut, moi j'aurais pensé différemment et ça amène de la richesse, de l'échange.
Oui.
Donc on ne fait pas ça tous les soirs parce que sinon ils iraient dormir vraiment
oui,
très
oui,
tard.
Oui.
Et parfois, il y a une occasion qui est trop belle et je trouve que c'est important de les saisir. Et c'est aussi pour ça que j'adore ce moment de lecture parce que je sais pas comment sont tes enfants, mais les miens, ils racontent quand même pas grand-chose de ce qui se passe à l'école. Et donc...
Non, ils sont secrets.
Voilà. Et donc, on est toujours un peu frustrés en tant que maman,
ouais.
Parce qu'ils ils sont tellement petits, mais déjà, ils nous échappent.
Mmh, complètement.
J'adore ce moment du soir, parce qu'on se concentre sur une même histoire. On est là tous les trois.
Mmh.
Et on peut aller partager des choses qu'on a vécues, ou de faire des liens avec ce qui est dit dans l'histoire.
Maintenant, tu le dis, c'est vrai, ça me fait prendre conscience que le livre, en fait, et c'est intéressant parce que c'est pas encore une thématique que j'ai beaucoup abordée dans ce podcast avec d'autres invités, c'est que le livre est un médiateur incroyable, quoi. Et c'est maintenant que tu amènes cette histoire de raconter ce qui se passe à l'école, et c'est sûrement à ce moment-là que la discussion commence à s'ouvrir. Et c'est vrai que c'est frustrant, pas tous les soirs, parce que oui, on est parti pour une heure et demie de discussion. Et parfois, je comprends que ce soit compliqué de couper le robinet de ce flot d'infos qu'ils amènent, même de petits secrets, de petites confidences. C'est très intéressant ce que tu amènes, je trouve, c'est vrai.
En fait, c'est créer ce petit climat de confiance.
Mm-hmm.
Alors, parfois, je ne cherche pas vraiment une thématique en particulier, mais parfois... Il y a un livre qu'on a adoré, c'est des enfants qui jouent dans le trou. Ils ont chacun leurs petites activités, etc. Et puis ben, les adultes disent, mais non, c'est trop dangereux de jouer dans ce trou-là, vous ne pouvez plus y aller. Et donc les enfants s'ennuient, ils sont dans la cour, c'est pas drôle. Et puis ils vont commencer à jouer autour du trou. Et enfin voilà, et en parlant de ce livre-là, à partir de ce livre-là, on peut parler, bah, tiens, est-ce que toi, tu sais, pourquoi les adultes ils veulent pas que les enfants jouent là ? Qu'est-ce qui est dangereux ? Enfin voilà, mettre plein de petites questions et puis dire, ah et toi, tu joues où dans la cour ? Tu fais quoi ? C'est quoi ton activité ?
C'est une belle entrée en matière.
C'est quoi ton coin préféré ?
Voilà,
ça me donne envie de leur poser encore plus de questions.
Bon bah ce soir à nouveau. Ah c'est chouette.
Mais c'est vrai que les livres pour enfants, j'adore vraiment et je suis tellement contente d'être une maman et pour... pouvoir redécouvrir. Alors il y a des j'adore Mathieu Maudet par exemple, qui me fait rire parce qu'il va détourner les contes de fées par exemple,
oui.
De manière très simple, très efficace, des histoires pour vraiment petits. Il y a vraiment des belles histoires qui à force on l'a loué une fois, deux fois, trois fois à la bibliothèque, ben, je vais l'acheter, on le garde, on l'offre, mais voilà, c'est vraiment le plaisir aussi de partager ces auteurs préférés.
Ah, c'est chouette tout ça. Je me retrouve aussi dans quelques, voilà, ces petits moments de famille, etc. Mais je pense que beaucoup, beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui sont mamans, ou même marraines, ou tantines, ou amies, je pense qu'elles peuvent se retrouver dans ce moment de partage, parce que je pense personnellement, avant d'avoir mes propres enfants, avec mes nièces, etc., c'est un super moment de partage, en fait, qui peut être accessible à plein de personnes, quoi. Donc, j'aime bien que tu ramènes ça au centre de la discussion. Pour revenir à la lecture, on parle beaucoup du rituel enfant-maman, c'est un fameux rituel qui prend de la place et du temps, et qui est très savoureux aussi. J'ai envie de revenir à Thérèse, on oublie maman, on oublie la maman. Je reviens à Thérèse, la jeune femme. Ton rituel à toi, pour tes moments de lecture à toi, c'est quoi ce rituel idéal? Ça ne veut pas dire que tu le fais peut-être tous les jours, parce que voilà, on a nos vies qui sont, voilà, même avec le Covid, parfois chamboulées et très très remplies, mais ton rituel idéal, quand tu peux te l'offrir. Voilà, tu me dis qu'aujourd'hui, on est chez toi, tu étais bien tranquille en m'attendant. C'est quoi ce rituel que tu peux t'offrir? Si tu fermes les yeux, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe, ce petit moment avec un livre et toi?
J'ai envie de dire que tous les moments sont bons à prendre, et donc je me suis adaptée, même parfois quand il y a du bruit ou même dans la voiture, comme on discutait tout à l'heure, donc je peux vraiment lire partout. Maintenant, si j'ai le moment 5 étoiles, je viens de faire une petite tisane ou un petit thé, de me faire un petit moment cocooning comme ça. J'aime bien d'avoir un crayon pour souligner certains passages du livre.
Ah oui, ça va pour toi, souligner, écorner, il y a un fameux débat.
Ouais, un crayon. Et proprement dans la main, parce que du coup, comme ça, quand je feuillette, je vois tout de suite les endroits avec les passages qui sont importants. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu du mal à retenir. Donc quand il y a vraiment des livres qui me parlent, je me dis non, ça, je veux pouvoir le retrouver facilement. J'ai attrapé une petite manie récemment, c'est de prendre des photos des pages.
Donc, ah oui, oui.
Je lis un livre, je fais une photo de la couverture, et puis alors... Au milieu de mes photos, de mes plantes dans mon jardin, de mes enfants, etc., pouf, il y a une page. Et donc, voilà, à la fin, j'essaie de compiler ça parce que j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas quand ni quoi, mais j'ai envie que ces livres, ces lectures, ces mots qui m'ont touchée puissent, je ne sais pas, construire quelque chose. Par la suite. Donc... voilà, et aussi pour faire un petit backup à ma mémoire.
Oui, on dirait en fait que tu es en train de rassembler plein de choses autour de toi, là, et qu'il y a quelque chose qui se prépare.
C'est vraiment ça, en fait. Mais en ayant le temps, et c'est vraiment ça que j'adore dans la lecture, c'est qu'on peut aller chercher, un jour on a envie de lire sur le jardin, un jour on a envie de lire sur l'écriture. Enfin là, j'ai le livre de Stephen King, Mémoire d'un métier, écriture, qui est vraiment génial.
Qui sait, peut-être que je te reçois bientôt, dans quelques mois, pour l'écriture.
Quand il y a lecture, l'écriture n'est pas, est souvent assez proche, et donc voilà, ça c'est vraiment des univers qui sont dans ma vie depuis toujours, et que j'ai envie de faire fleurir encore davantage, mais voilà, sans pression, petit à petit, et en allant chercher les petits morceaux qui
s'offrent à toi, quoi. Ouais. Ah, mais ce petit moment cocoon, le thé, prendre le temps, c'est déjà très très précieux. Et moi, j'aime bien qu'on me dise ça dans le podcast. On peut souligner, on peut écorner des pages, surtout pour cette idée de rassembler, créer son petit univers, ses petites ressources autour de soi, et qui sait ce que ça offrira après, par la suite, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Et tu sais ce que j'adore quand c'est un livre de la bibliothèque, c'est que quelqu'un est passé avant moi, a laissé une petite trace, et en fait, c'est comme si, je prends le cadeau. Il y a cette phrase qui est soulignée, et cette phrase a résonné pour quelqu'un d'autre.
Oh, c'est beau, ça.
Et je trouve ça... Ou même, quand c'est mes propres livres à moi, c'est de me dire, mais là, j'ai souligné, il y a... Je ne relis pas souvent mes livres, mais parfois, on va rechercher un livre, et il y a 10 ans, ce truc, ça a fait paf pour moi.
Oui, que tu te rappelles toi-même vis-à-vis de toi-même, ce que ça signifiait pour toi à ce moment-là, ou la répercussion.
De temps en temps, j'aime bien acheter un bouquin. Alors après, c'est... retranscription de ce que j'ai souligné dans le livre de la bibliothèque, dans le livre que j'ai acheté.
Ça peut être laborieux.
Donc, il y a certains livres qu'on devrait acheter directement. Mais voilà, c'est de pouvoir aussi se répondre à soi-même, au soi d'il y a X années, qui a évolué, qui a grandi. Et ça aussi, c'est un côté un peu magique, parce que d'un côté, on se dit, pourquoi ça soulignait ça, et pouf, ça n'a plus aucun impact. Mais
aussi,
parfois, c'est vraiment des petits cadeaux. Mais ça marche tout aussi bien avec des personnes qu'on ne connaît pas.
Ah, c'est gay, ça.
Voilà, donc parfois, des petites choses mettent dans la marge. Et je trouve ça hyper, hyper gay de dire, on partage quelque chose avec quelqu'un, on ne sait pas qui.
Ah, c'est beau. J'ai un souvenir, j'avais reçu le témoignage de quelqu'un qui n'avait pas connu son grand-père, justement, mais qui avait reçu ses livres, les livres de sa bibliothèque. Et en ouvrant les livres, en les parcourant, il avait justement vu des annotations de la main de son grand-père. Et que ça pouvait créer un dialogue, justement, hors du vivant et du corporel entre lui. Oui, ouais, complètement. J'aime bien le rituel. Je m'imagine Thérèse, voilà, dans son petit moment suspendu. Est-ce que la lecture fera toujours partie de ta vie? C'est une question un peu bateau, mais je me dis, est-ce que tu peux t'imaginer plutôt, je vais poser ça autrement, est-ce que tu peux t'imaginer maintenant, à ce stade-ci de ta vie, vivre une vie sans lecture?
Alors, je vais te faire visiter ma maison et tu vas voir tous les petits paquets de livres qui m'attendent. Mm-hmm. Et donc, je crois que je n'aurai pas assez d'une vie pour lire tout ça et tous les autres que je n'ai pas encore découvert. Mais donc, non, une vie sans lecture, ce serait bien triste.
Ah oui, non. Et puis, comme tu as cette notion de la curiosité, du voyage, c'est merveilleux. Surtout maintenant, dans ces temps où certaines choses sont un peu plus limitées. Oui, est-ce que...
J'ai beaucoup voyagé. Et ici, en fait, je pourrais très bien être casanière et m'emporter très bien, pour autant que je sois entourée de mes livres, de choses intéressantes. Et les livres en font partie. Si on a, enfin, le livre vraiment la porte vers le monde, quoi.
Ah, complètement. Et je ne sais pas, toi, pendant les confinements, etc., mais ces moments où on était vraiment obligés de rester chez nous, c'est presque aussi... un ami qui vient te sauver, de t'extraire de cette situation. T'as su lire, toi, pendant le confinement ?
Oui.
Oui ? T'as trouvé des moments
Donc, j'ai lu Histoire d'un amour perdu.
Voilà, oui.
Et j'ai lu aussi une lecture que j'ai vraiment adorée. Et le premier mot que j'ai prononcé, c'était « femme ». Toutes les femmes, elles devraient, et même les hommes, devraient lire ce livre qui s'appelle « Sorcière » de Mona Chollet.
Ah oui.
Et je l'ai trouvé vraiment... pas les mots comme ça, mais un peu époustouflant dans le sens où ça, c'était plein de choses que je savais déjà, mais que je n'avais jamais formulées de cette façon-là, et plein de choses. Je me dis, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus, quoi? Et ça va des tabous liés au fait de ne pas vouloir d'enfant, à la vieillesse, au corps, enfin, ça part de la femme sous toutes ses facettes, et je l'ai trouvé vraiment formidable.
Ah, c'est génial que tu puisses l'amener, ce livre, pour les femmes qui l'ont lu en confinement, en plus, parce que beaucoup l'ont lu en confinement, ça a eu un effet presque double, j'ai l'impression. Ce livre fait déjà un effet d'une bombe, et puis le lire en confinement, et avec aussi quand on est maman, quand on est âge 24 avec ses enfants, et que ça nous confronte presque à notre statut de mère. Moi, je sais que ça a fait bouger des lignes en moi énormément à ce niveau-là. Justement, c'est presque une des dernières questions que j'ai envie de te poser. Est-ce que la lecture t'aide à te ramener aussi dans ton identité de femme ? Et t'es presque en train d'y répondre là, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants, on a beaucoup parlé de l'après aussi, après la disparition de leur papa. Et donc évidemment que le rôle de maman est devenu, j'imagine, extrêmement important, extrêmement prépondérant. Est-ce que toi, maintenant, la lecture peut t'aider à revenir dans ton identité de femme et individuelle, Thérèse, quoi ?
On parlait des livres, mais ça me fait prendre conscience à quel point la lecture a été très importante pendant ces 4 années, en fait. Même si c'est un peu en pointillé parfois. Parce que les moments, finalement, où je lis, c'est les moments pour moi.
Ah oui,
parce
oui.
Parce qu'il faut un peu de concentration, il faut un peu de temps. Et oui, finalement, c'est la lecture que je choisis parce qu'elle m'intéresse. Donc oui, tout ce que je lis, ça participe à construire finalement la femme, à répondre à ses questionnements. Oui.
Ah, chouette. Écoute, je suis ravie d'entendre tout ce que tu offres ici en toute confiance. Je te remercie d'oser dévoiler avec cette réserve, mais juste certains moments de ton passé, de ta vie, tout ce que tu nous offres comme beaux moments. Je trouve que tu amènes plein de moments qui me font sourire, qui font sourire d'entendre de voir ces petits moments de partage avec les enfants, ces discussions, ces voyages intérieurs que tu as grâce au livre. Est-ce que, justement, ce sera ma dernière question, dans ses parcours, dans ses voyages, dans tous ces mots que tu vois passer sous tes yeux. Peut-être des mots que tu entends aussi parce que tu les prononces avec tes enfants, ou que tes enfants prononcent en lisant, si le grand commence à lire, etc. Ou le petit qui raconte des histoires, peut-être. Tous ces mots qui font partie de toi, qui t'entourent. Est-ce qu'il y en a pour toi qui sont importants, qui ont une puissance, une résonance forte? Est-ce qu'il y a des mots qui délivrent?
J'en ai un qui m'est venu tout de suite, en fait, c'est légèreté.
Ah ouais.
Et légèreté, pourquoi? Enfin, c'est de nouveau une petite anecdote. J'ai une collègue qui un jour a mis sur mon bureau une bande dessinée qui s'appelle La légèreté.
Oh oui.
De Catherine Meurice, je ne sais pas si tu le connais.
Oui, oui, je le conseille très souvent d'ailleurs.
Voilà, et donc de nouveau un livre sur le deuil. Donc ici, c'est le deuil de Catherine Meurice par rapport à ses collègues journalistes, dessinateurs qui ont été assassinés dans l'attentat à Charlie Hebdo.
Oui.
Et donc cette collègue a déposé ce livre-là. Bon, c'était pas tout de suite après le décès de mon mari, mais ça a résonné très très fort. Je trouvais ça très touchant parce que c'est pas une collègue que j'apprécie beaucoup, mais on n'est pas très très proches.
Ouais.
Et j'ai vraiment apprécié ce partage de ce livre. Et il est magnifique pour parler du deuil, de la reconstruction. Et oui, la conclusion c'est ça, c'est de pouvoir aborder les choses avec légèreté, même dans la tristesse, même dans la lourdeur. En fait, il y a toujours, en fait, on peut s'extraire, on peut s'envoler. Et oui, je trouve que c'est un très très beau mot, et que j'essaye de me répéter, voilà, des moments qui sont un peu plus difficiles. Ben, comment est-ce qu'on peut remettre un peu de légèreté là-dedans?
Ah oui.
Et en fait, rien d'invoquer, de convoquer la légèreté, ben, tout de suite c'est un switch d'état d'esprit.
Ah oui,
c'est un mot un peu magique.
C'est vrai, il y a des mots, en plus dès que tu les prononces, c'est comme s'ils t'auto-alimentaient déjà de cette sensation légèreté. Waouh, merci beaucoup. Écoute, pour les quelques fois où je te vois, où je t'entends, où on discute, moi je ressens beaucoup de légèreté, de sérénité, d'apaisement. Et je voulais vraiment très très sincèrement te remercier d'avoir joué le jeu de l'interview et de t'être confiée, et ben, je pense que c'est un cadeau que tu fais aussi à d'autres personnes qui l'entendent peut-être, et je suis sûre que ça va faire des ricochets un peu plus loin. Donc, Thérèse, merci beaucoup.
Merci à toi, c'est lié aussi. Bon, c'est un peu inconfortable de se mettre à nu comme ça, mais à la fois c'est tellement gai de pouvoir échanger sur les livres et la lecture. Enfin, je trouve que c'est des univers vraiment fabuleux.
Ah, merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne ou bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.